Direct en jeu, la radio insolite, toujours à Cannes, toujours pas au Palais des Festivals, c'est pas possible. Mais non, parce que vous savez qu'à Cannes, d'une part, il n'y a pas que le mois de mai, deuxième point, il n'y a pas que le cinéma, il y a plein de choses intéressantes. Et là, j'ai pris de la hauteur. Alors, j'ai pas grimpé à pied, je reconnais, parce que là, je vous dis pas, c'est carrément, c'est comme si on montait, comment dire, la montée de l'Alpe d'Huez pour venir ici. Et je suis dans le quartier du Suquet, qui est un quartier historique avec. Présentez-vous parce que je ne sais pas comment il faut vous présenter, la déesse du Suquet.
Bonjour, je suis donc Chloé Rosati Marzetti, je travaille à la direction des musées de Cannes et aussi donc nous sommes ici dans les locaux du musée des explorations du monde.
Alors, comment ça se fait qu'on trouve un musée des explorations du monde dans les hauteurs?
Alors en fait, on avait un musée historique qui a été créé donc dans ces murs à partir de 1926, qui existait déjà autrefois à l'Hôtel de Ville, et qui est en fait tout simplement fait à partir de collections de voyageurs qui étaient venus, notamment donc le baron Liclamart, un Hollandais, qui était venu en villégiature à Cannes et qui avait donc des collections de ses voyages en Orient. Et il nous avait fait un dépôt à la ville de Cannes, et autour de ce dépôt, nous avons constitué donc nos collections, qui sont des collections d'ethnologie, des collections de beaux-arts. Donc nous avons aujourd'hui des pièces qui viennent d'Himalaya, d'Arctique, de Mésoamérique, d'Océanie, d'Afrique notamment. Et voilà, autour de ça, on constitue. Donc c'est un musée qui est dont les objets en fait ont été rapportés par des chercheurs, par des voyageurs. Donc où on a des renseignements sur ces objets, puisque certains ont écrit des journaux, certains ont pris des photographies in situ des objets, etc. Donc on a pas mal de renseignements dessus, ce qui en fait sa richesse.
Alors, ce qui est assez original, c'est que quand on fait des recherches, on trouve deux noms. D'une part, le musée d'exploration du monde, et d'autre part, le musée de la Castres.
Alors aujourd'hui, nous nous appelons Musée des Explorations du Monde, parce que c'est un musée qui est c'est un nom qui est un peu plus parlant par rapport aux collections que nous hébergeons. Et autrefois, il s'appelait Musée de la Castres, puisqu'en fait, nous sommes dans le quartier de la Castres, donc avec ce château au Suquet en haut. Et nous avons donc la tour de la Castres et la place de la Castres juste à proximité. Voilà, donc c'est l'ancien nom. Mais souvent, les gens s'attendaient à avoir. Quand ils avaient le musée de la Castres, ils s'attendaient à avoir un musée peut-être un peu plus local, de la vie locale, etc. Donc ce changement d'appellation permet aux personnes, aux visiteurs, de se rendre compte avant d'y entrer de ce qu'ils peuvent trouver dans le musée.
Ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que quand on vient ici visiter le musée, on a l'impression de se balader dans le monde entier.
Ah ben c'est le but en fait, c'est tout plein de voyageurs qui sont passés par Cannes et donc qui nous ont laissé des objets. Puis nous, autour de ça, on fait notre travail d'enrichir les collections pour avoir toujours plus de choses à dire et pouvoir ouvrir aussi notre regard sur le monde, un petit peu comme Cannes est ouverte sur le monde, les musées aussi.
Ce qui est original, c'est votre cœur de métier. Vous n'êtes pas que responsable, vous êtes aussi, comment est-ce qu'on dit, anthropologue?
Alors moi je suis anthropologue effectivement, c'est un musée d'ethnologie ici donc ça cadre bien et je suis plus particulièrement spécialisée sur l'anthropologie du proche, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur la Provence et la question de provençalité et d'identité locale.
Ah là, vous me donnez, c'est parfait, là, vous venez de nous donner le lien avec la suite et tout. Donc, il y a un dénommé Monsieur Tubi qui a vécu il y a quelques années.
Tout à fait. Donc Victor Tubi, c'était un érudit local de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui est mort en 1945 et qui a beaucoup œuvré justement pour le renouveau provençal et la connaissance de la Provence, donc à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, à Cannes. Et donc voilà, il a fondé plein de choses. Il a fondé ce qu'on appelle, qui existe toujours aujourd'hui, l'Académie provençale, donc avec des groupes de danse, de musique, etc. Le parler provençal.
Ce qui est original, c'est quand on pense à Cannes, on ne pense pas à la Provence.
Et pourtant, alors c'est vrai qu'avec le rattachement de Nice aux Alpes et la création du département des Alpes-Maritimes en 1860, cette identité a peut-être un peu été gommée, mais Cannes fait partie de la Provence. Voilà, en fait, la Provence, le royaume de France, et donc la Provence s'arrêtait au fleuve Var jusqu'en 1860. Et puis après, on a agrandi le royaume de France, et voilà.
C'est important à préciser, Cannes n'a jamais été italien.
Non. Et Nice faisait partie du comté de Nice. C'était pas, voilà, non plus italien, c'était des Niçois aussi.
Alors, il y a un projet qui s'appelle le projet Tupi. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Je suis curieux, hein?
Alors, ce projet, donc, c'est la création, enfin, l'ouverture, la réhabilitation d'un petit musée qui existait déjà, enfin petit, il fait quand même 800 mètres carrés de surface d'exposition, donc c'est quand même assez grand. C'est un projet justement de faire de présenter un musée de la vie locale de la fin du 19e, début 20e siècle, avec cette idée justement de provençalité, de comment vivaient les gens à Cannes avant que Cannes se développe et devienne une grande ville de congrès et de festivals.
Oui, parce que Cannes avant, c'était une petite bourgade. Hein. Moi, j'ai vu les photos aux archives municipales, c'est assez rigolo. Quoi. Ça a évolué de manière assez conséquente. Hein.
Tout à fait, c'était un petit village de pêcheurs, en fait, hein, comme on le voit effectivement sur les peintures, les photos d'archives, etc. Et petit à petit, ça s'est développé donc sous l'impulsion de Lord Brougham, voilà, qui était un Anglais qui est venu en 1834, qui s'est installé comme tous les hivernants, en fait. Il est venu pour des questions de santé. Et donc, il s'est installé à Cannes et il a aimé la ville, enfin le village du coup à l'époque. Et il a invité ses amis de l'aristocratie. Et donc, du coup, il y a ensuite, c'est comme sur toutes les autres villes de la Côte d'Azur de cette époque, on a commencé à installer des infrastructures qui ont permis donc de faire grandir ces villes et se développer. Voilà, et après, il y a eu la saison d'hiver, d'été a pris le pas sur la saison d'hiver et ça s'est développé donc, en étant aujourd'hui une ville d'accueil toute l'année.
Et puis après, il y a eu le Lumière qui est arrivé en 1939 pour se dire, tiens, je vais être président du premier festival qui n'a pas eu lieu et qui a été décalé en 47. La culture, c'est quelque chose qui est très important sur Cannes, j'ai l'impression.
Oui, on a plusieurs structures culturelles. Donc, on a les musées, on a le pôle d'art contemporain de Cannes, on a aussi les archives, on a les médiathèques. Donc, on essaye de développer tout cela donc pour le grand public. Et aussi, en parallèle, on est dans ce qu'on appelle le dispositif du 100% EAC, où on reçoit les écoles cannoises, et pas que, mais aussi les écoles cannoises. L'idée du 100% EAC, c'est l'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire que tous les enfants, alors idéalement de la crèche jusqu'à l'université, et une sortie culturelle ou artistique dans l'année. Donc on reçoit voilà, énormément d'enfants pour leur présenter un petit peu l'essence, le cœur de la ville aussi, voilà, forger leur identité cannoise aussi.
Ce qui est assez fou quand j'ai eu l'occasion de rencontrer Aurélie, la directrice de Cannes Cinéma, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, les enfants à Cannes sont privilégiés parce qu'ils ont quand même une activité qui n'est pas qu'une activité scolaire traditionnelle. Ils ont une ouverture assez conséquente sur l'art.
Ben oui, on espère. Justement, l'idée, c'est de leur donner dès le plus jeune âge une ouverture d'esprit et de leur donner envie, voilà, plus tard, de fréquenter les musées, d'aller lire des livres, de regarder des films, voilà, tout ça.
Alors, ce projet Tubi va aboutir à l'ouverture d'un musée. C'est quand que ça va se passer ?
Alors, l'ouverture du musée est programmée pour la mi-2027. Voilà, avec donc un accueil du public qui se fera pour pouvoir leur présenter justement un musée de la provençalité et pour présenter aussi aux touristes ce que c'est que la Provence. Parce que si les gens du coin parfois oublient que Cannes était provençale, ils en ont quand même à l'esprit. Mais c'est vrai que souvent, les touristes en ont peut-être entendu parler et s'attendent à trouver cette provençalité qui dans les faits aujourd'hui ne se voit plus trop, surtout en période donc de grands congrès et de festivals.
Bon, on va faire un petit exercice pas très facile. On est en radio, on ferme les yeux, on visite le musée. Qu'est-ce qu'on trouve ?
Alors, dans ce musée, il y aura différentes salles. Alors, ce musée, il va être refait à la manière dont l'avait fait Victor Tubi, c'est-à-dire que c'était sa maison, il y habitait, mais il avait créé sa maison comme un musée. Donc on va avoir par exemple une salle à manger avec les meubles, voilà, deux salles à manger, en l'occurrence des meubles pour recevoir, des meubles de donc Second Empire là. On aura une salle des pressoirs, donc avec un ancien moulin à vis qu'on appelait les moulins à sang. On aura ensuite le petit salon, donc c'est-à-dire là où on va pouvoir se détendre, jouer aux cartes, etc., donc avec le mobilier et les objets donc qui seront en rapport. On aura son atelier de peinture et de sculpture, puisque en tant qu'érudit local, c'était un touche-à-tout. Il était à la fois fait libre, donc le mouvement du fait libre, le mouvement de Frédéric Mistral, et du coup il était aussi chimiste, il allait dans la RPI pour ramasser des herbes pour faire des médicaments, il distribuait aussi des médicaments de sa composition qu'il distribuait gratuitement aux Cannois qui étaient dans le besoin, etc. On va pouvoir voir aussi la Bastide qui elle est recréée comme la salle de vie en fait de l'époque, puisque début du 19e, début, pardon, du 20e siècle. On ne vivait pas comme on vit aujourd'hui, on n'a pas forcément le salon pour recevoir, on reçoit plutôt dans la cuisine, autour de la cheminée, donc on n'a pas l'eau courante, on n'a pas le radiateur, enfin, à certains endroits, il y a le radiateur, mais voilà, c'est le début, donc on est plutôt autour, justement, de cette vie paysanne, on va dire, autour de la cheminée, et après, on aura la salle de musique, puisque comme il a créé l'Académie Provençale, il est aussi très musique provençale, donc où on pourra trouver différents objets, des tambourins, des galoubets, etc., des partitions. On va avoir aussi une salle donc, consacrée à l'enfance, on aura quelques costumes provençaux, et la chambre de Victor et sa femme, donc Monsieur Tubi et Madame Tubi, qui présentera en fait un élément aussi de cette maison. En fait, l'idée, c'est que les gens puissent venir un petit peu dans cette maison et se représenter comment on pouvait vivre à la fois quand on a un statut social, qu'on est par exemple paysan, ou quand on a un statut social un peu plus élevé. On aura aussi une grande place qui s'appelle la Placette, qui, elle, a été conçue par Victor Tubi comme un grand espace de village, une place de village d'ailleurs. Elle a été faite sur le modèle de la place de Biot, du village de Biot, voilà, et avec des arcades, etc. Et là, ce sera l'occasion de pouvoir traiter des fêtes provençales, donc avec les farandoles, les chants, les danses aussi, etc. Et après, on aura une petite salle aussi qui s'appelle le fumoir ou le salon oriental, qui est là une ouverture sur aussi ces érudits qui touchaient à tout. Donc les voyages en Orient, et on rapporte différentes choses d'Orient pour montrer justement l'ouverture au monde et la diversité culturelle.
Alors, j'ai une chose qui m'a agréablement surpris, c'est que toutes les pièces sont vraies, sont authentiques. C'est pas toujours le cas.
Voilà, alors là, ce sont des meubles, tous les meubles et tous les objets ont été collectés donc, par Victor Tubi. Les meubles, certains ont été faits sur mesure par Victor Tubi. Certains sont de la même époque, même s'ils ont été acquis après sa mort, par sa femme ou par des membres de sa famille. Quoi qu'il en soit, effectivement, l'idée, c'est de garder l'esprit du musée que voulait créer Victor Tubi. Alors, c'est un musée où on va présenter sa vision de la Provence. C'est une vision, voilà. C'est donc l'idée de la provençalité telle que lui la voyait. Donc voilà, l'idée, c'est de faire ce petit musée imaginaire provençal.
Je suis obligé de vous poser l'alcool. Comment est-ce qu'on peut définir la provençalité ?
Alors, la provençalité, ça va être l'idée qu'on se fait de la Provence. Ce n'est pas forcément la réalité, mais c'est l'idée qu'on en a. C'est-à-dire, après, selon où vous allez, ça sera les changements.
300 jours de soleil, la mer.
Voilà. Alors, il n'y a pas la mer partout en Provence, mais oui, c'est cette idée de forêt avec le maquis, de fleurs, de senteurs, les cigales, le soleil. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée, voilà, comment avec ce parler aussi local, l'accent. Alors l'accent qu'on perd, puisque justement on devient de plus en plus cosmopolite, donc on perd cet accent. Si on va à quelques kilomètres dans le Var, ils ne l'ont plus prononcé, nous c'est vrai qu'on l'a perdu, mais voilà, c'est cette idée de ce qu'on imagine être la Provence.
Est-ce que ça va être aussi une vitrine avec des colloques, des conférences, pourquoi pas un festival du film sur la Provence?
Alors, l'idée, effectivement, c'est d'accueillir aussi des chercheurs, donc d'avoir des colloques. Donc, on aura, effectivement, dans la salle de la Placette, une mise à disposition pour pouvoir faire avancer la recherche aussi, donc avec des spécialistes. Et on aura aussi une salle qui est une salle de lecture, puisque l'association Moulin-Fortville Musée Victor Tubi, qui est détentrice des objets qui seront à l'intérieur du musée, possède une très grande collection de livres, d'ouvrages très anciens pour certains. Je crois que le plus ancien remonte au 15e siècle, avec certaines versions originales, dont des livres qui sont introuvables. Et l'idée, c'est que cette bibliothèque puisse être ouverte aux chercheurs. Donc sur rendez-vous, on nous appellera et on ouvrira et puis on pourra faire des recherches, puisque à l'heure actuelle, il y a des chercheurs qui les contactent pour pouvoir justement consulter ces ouvrages qui sont parfois disponibles en unique exemplaire au Moulin Fortville.
Bon, dernière question. En radio, on ne le voit pas. Derrière vous, j'ai toutes les affiches un peu passées des autres festivals et tout. Point commun entre le musée d'exploration, les musées de Cannes et le festival de Cannes. En dehors de l'arrivée du musée du cinéma qui arrive bientôt.
Alors, notre point commun avec tous les musées et Cannes, bah, c'est-à-dire que, et le festival, c'est-à-dire qu'on reçoit énormément de gens aussi pendant ce festival, ce qui nous permet aussi de montrer, comme vous le disiez en ouverture, qu'à Cannes, il n'y a pas que les festivals, qu'il y a aussi autre chose en matière de culture. Et donc voilà, ça permet de montrer toute notre diversité et cette ouverture au monde qui, pour le coup, entre en résonance avec ce qui est présenté au Festival du film.
Ben, si j'ai bien compris, c'est vrai que le musée n'est pas ouvert qu'au mois de mai. Il est ouvert toute l'année.
Voilà, le musée, tous les musées, et y compris le musée du Masque de Fer et du Fort Royal qui se trouve sur l'île Sainte-Marguerite, sont ouverts toute l'année pour que tout le monde puisse en profiter.
Alors, je tiens à rappeler que le musée du Masque de Fer, il faut y aller en bateau. Hein. On peut pas y aller si on peut y aller à la nage, je crois.
On peut y aller à la nage, c'est pas très loin, mais il y a quand même des courants. La traversée se fait une fois par an, hein. Il y a une grande traversée qui se fait. Mais oui, il faut plutôt y aller en navette, c'est à 15 minutes de Cannes, et c'est un petit écrin de verdure qui permet aussi de voir aussi la vie cannoise un peu différemment.
Si je veux plus d'infos, il y a un site internet, une chaîne YouTube.
Alors, on a notre site internet de la ville de Cannes, donc il faut aller sur cannes.com et puis dans la rubrique musée, il y a toutes les informations, nos activités, nos expositions temporaires, puisque nous mettons en place tous les ans une exposition temporaire, que ce soit au musée des explorations du monde ou au musée du Masque de Fer du Fort Royal, qui dure à peu près entre 5 et 6 mois et où on explore différents thèmes en fonction de nos affinités. On vient de clôturer une exposition au musée du Masque de Fer et du Fort Royal qui s'appelait « Aux origines de Cannes, pêche et autres trésors de la mer », qui justement retraçait un petit peu le parcours des pêcheurs cannois à l'origine, donc on va dire au 18e, 19e siècle, et aujourd'hui, puisqu'il existe encore des pêcheurs à Cannes aujourd'hui. Et ici, au musée des explorations du monde, nous avons une exposition qui va se terminer dans la semaine prochaine, qui s'appelle « Démons et déesses, de la vie à la mort », et là, qui présente les figures féminines de l'Antiquité, et leur reprise au 19e siècle par les artistes du 19e siècle.
Si, une dernière chose que je ne peux pas oublier, on a la chance, à chaque fois qu'il y a le festival, on a la chance d'avoir la nuit des musées, c'est dans quelques jours.
Tout à fait, donc le samedi 23 mai, nous aurons donc cette nuit des musées, le musée sera ouvert jusqu'à minuit, gratuitement, et nous accueillons une classe, la classe de CM2 de Monsieur Rouland de l'école Croisette. Ce sont des élèves qui vont venir nous faire une présentation. Donc, avec le service médiation, nous avons travaillé avec eux pendant 6 mois, là, à peu près, pour leur présenter des objets, pour qu'ils s'approprient ces objets, et c'est eux qui vont être les guides et qui vont présenter au public. Donc ça, c'est toujours une bonne expérience. Ce sera de 18h jusqu'à 20h, et on pourra les écouter nous parler de ces objets qui leur ont plu et pourquoi ils leur ont plu.
Il faut réserver ?
Non, c'est gratuit, c'est sur entrée libre. On vient comme on a envie, et on s'en va quand on veut.
Merci à vous.
Merci beaucoup.